comment dire des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Ils font partie des héros les plus populaires de la BD franco-belge. Le capitaine Francis Blake et le professeur Philippe Mortimer. Entre les salles mystérieuses du palais de justice de Bruxelles et les souvenirs et cauchemars égyptiens de Mortimer, nos quatre invités signent un album au cachet singulier et dont l'intrigue nous invite, comme le faisait Jacobs, à réfléchir au progrès scientifique, à l'impact des technologies et à notre rapport à la planète sur fond de géopolitique. Au dessin, François Skuyten, le co-auteur ou plutôt l'architecte de la saga des Cités Obscures. Il co-signe le scénario avec deux autres grand raconteur d'histoire, le cinéaste et metteur en scène Jaco van der Mal, réalisateur de Toto le héros, du 8e jour ou du Tout Nouveau Testament, et Thomas Gunzig, romancier, acteur, auteur, metteur en scène de spectacles vivants. Quant au quatrième larron, c'est Laurent Durieux, affichiste, illustrateur, graphiste, designer, dont le travail a été salué par de très grands noms du cinéma américain, Coppola, Spielberg ou encore Paul Thomas Anderson. Bref, un casting de choix pour un album intitulé Le Dernier Pharaon, paru aux éditions Blake et Mortimer, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour à tous les quatre et merci d'être là.
Bonjour.
Alors il paraît, François Skuyten, que ça faisait des années que votre éditeur vous incitait à signer un album de Blake et Mortimer. Vous avez toujours, vous êtes fait un peu prier, quoi. Pourquoi cette fois-ci vous y êtes allé?
Eh ben, c'est vrai qu'il a beaucoup insisté. Il était convaincu que j'avais un Blake et Mortimer en moi, presque. Il fallait que ça sorte. Il était prêt à toutes les concessions, me laisser la possibilité de le faire dans un style qui était le mien, un nombre de pages qui était aussi celui que je voulais, avec qui je voulais, etc. Mais il n'y avait pas l'étincelle. C'est vraiment peu de choses, mais beaucoup en même temps. Puis ces trois lignes de Jacobs lui-même qui disait, dans ses intentions de récit, Blake et Mortimer au palais de justice de Bruxelles.
Ah, et c'est le palais de justice de Bruxelles qui a été l'étincelle.
Ouais, c'est vraiment ça, parce que là, je me suis dit, c'est incroyable. Il est prêt à mettre ses personnages dans sa ville. Et d'ailleurs pas très loin de là où il a grandi, et c'était une porte qui s'ouvrait, c'était une main tendue, c'était on pouvait y aller.
Ouais, et c'était aussi pour vous l'occasion de réunir vos deux passions, donc Jacobs, puisque vous êtes vraiment un lecteur très assidu de Jacobs, et votre passion aussi pour l'architecture. Vous auriez pu y aller tout seul, François Skuyten. Pourquoi aviez-vous besoin de vous entourer de trois confrères, collègues?
Je ne crois pas que j'aurais pu aller tout seul. Je crois que je me serais perdu. La pression d'abord était très très grosse. Et quand on est à quatre avec trois amis, on est plus fort, on se sent moins seul et on partage nos doutes et on partage nos rêves.
Alors comment est-ce que Jaco van der Mal, qui est à côté de vous en ce studio, est arrivé dans l'équipe? On va lui demander, Jaco van der Mal, racontez-nous.
Ah mais je connais François depuis très très longtemps, on est amis depuis presque 40 ans.
Vous avez déjà travaillé avec lui à plusieurs reprises.
Et il avait travaillé avec moi sur Mr. Nobody, c'est François qui avait conçu l'aspect visuel du futur, du vaisseau, etc., qui avait dessiné tout ça. Et là, en passant en vacances chez lui, à un moment donné, quand je repars, il m'envoie un SMS, il m'avait parlé du projet, il m'avait dit, est-ce que tu pourrais me conseiller un scénariste? Et je lui réponds, moi.
Ah voilà. Oui, voilà. Puis, parce que vous étiez déjà un fan, un lecteur assidu aussi, oui, de Blake et Mortimer,
oui,
et de Jacobs.
J'ai été biberonné à Blake et Mortimer. Je lisais Le Mystère de la Grande Pyramide avant de savoir lire. Donc j'ai d'abord appris à lire les images et puis appris à lire.
En plus, il y a du texte dans Le Mystère de la Grande Pyramide. Quand même, c'est une BD assez bavarde, pourrait-on dire, sans que ce soit péjoratif. Mais enfin, il faut quand même rentrer dedans.
J'ai mis très longtemps à comprendre ce que ça voulait dire By Jove et Guinea Pig. Donc,
ah oui, alors Guinea Pig, c'est la marque jaune. Hein, voilà. C'est oui. Et le cochon d'Inde. Et donc c'est vous qui avez dit, Thomas Gunzig, ce serait peut-être pas mal pour cette aventure.
Oui, parce qu'avec Thomas, on travaille très très souvent ensemble. On a écrit le Tout Nouveau Testament ensemble. On a écrit les pièces Kiss and Cry, Cold Blood ensemble aussi. Et donc j'ai l'expérience que quand on est tout seul et qu'on n'a pas une seule bonne idée de l'après-midi, c'est une après-midi pas terrible. Mais quand on est deux, au moins on a passé une bonne après-midi.
Mais là vous êtes trois, parce que Skuyten participe au scénario aussi. Il fait même plus que participer.
Absolument,
aussi peut-être.
Absolument. Hein. Et ici on a fait vraiment quelque chose de sur mesure pour François. C'est-à-dire c'était, il n'y a pas eu de texte écrit avant. C'est vraiment une écriture qui est faite pour le dessin. C'est-à-dire on s'est vu une fois par semaine pendant un an et demi.
Donc ça veut dire que vous avez construit l'album planche après planche sans savoir précisément
dessin,
où vous alliez.
Si, on savait où on allait.
Oui, on voyait un peu les grandes lignes.
Voilà.
Mais on avançait dans l'action et en même temps qu'on disait tiens, il pourrait se passer ça et ça. Si on voyait la main de François qui bougeait, on se disait ça c'est une bonne idée. Si la main de François bougeait pas, c'est les notes baromètres. On se disait bon, on va essayer de trouver quelque chose d'autre. Parce qu'il fallait aussi trouver quelque chose qui ait du plaisir à dessiner pendant les deux années qui allaient suivre.
Trois
années qui allaient suivre. C'est un album qui a pris plus de 4 ans, en fait.
Alors, un scénario à deux, c'est pas toujours facile. Un scénario à trois, Thomas Gunzig, c'est peut-être encore plus compliqué. D'autant, je crois que c'est votre première expérience en bande dessinée. Alors, concrètement, quel a été votre rapport à vous? Comment vous vous êtes organisé pour vous partager le travail sur le scénario?
Le principe du travail était vraiment simple. Le principe du travail, c'est que c'était des rendez-vous. Donc, en fait, un scénario à trois, c'est pas plus compliqué. C'est même peut-être plus simple qu'un scénario tout seul.
Parfois, il peut quand même y avoir des désaccords aussi. Une envie d'aller dans telle ou telle direction pour l'un et pas pour l'autre. Il faut bien que quelqu'un tranche.
Eh bien, on n'a jamais fait l'expérience du désaccord pendant 3 ans.
Oh,
pendant
c'est
3 ans.
Possible.
On sait, mais je vous assure, c'était une ambiance formidable. On était toujours content de se voir. Quelquefois, c'était compliqué parce qu'on ne trouvait pas d'idée à trois et puis on trouvait une solution à trois et puis voilà.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, trouver une solution, pardon de vous couper, parce que c'est ça finalement, construire une bande dessinée, c'est franchir des obstacles. C'est un peu le même travail qu'un metteur en scène, hein, Jacob van Dormael, quoi. C'est essayer de mettre les moyens pour pouvoir parvenir à la réalisation d'une idée.
C'est pas très différent que quand on écrit ensemble ou que quand on improvise avec des acteurs pour une pièce de théâtre ou qu'on écrit ensemble pour un scénario de film. On pédale dans la choucroute pendant assez longtemps. On sait qu'on va pédaler dans la choucroute pendant assez longtemps. Ce qui est assez chouette dans ce groupe-ci, qu'on travaille avec des gens qu'on aime bien. Par exemple, moi, il y a des idées que je laisserai tomber, mais Thomas les aime bien. Et moi, j'aime bien les idées de Thomas. Donc, souvent, moi, j'écris un peu à la Thomas. Lui, il écrit un peu à la Jaco. Et là, on faisait à la François. Donc, quand on est à trois, souvent, on garde des idées que si on était tout seul, on les aurait déjà achetées. Mais l'autre trouve comment la transformer et en faire quelque chose de chouette.
Quoi. Alors, ça veut dire quoi, écrire à la Thomas, Thomas Gunzig? C'est quoi votre rapport à vous dans cette mayonnaise que vient de nous décrire Jaco van Dormael?
Alors, je serais incapable de dire qui a mis quoi exactement dans le scénario. Je pense que tous, on était rassemblés autour de l'idée qu'on voulait faire le meilleur album possible et avant tout raconter une bonne histoire qui emporte le lecteur. Si on arrivait déjà à faire ça, je pense qu'on était très contents. Donc, on a essayé de s'exciter tous ensemble, hein, si vous me passez l'expression. Et on se voyait une fois par semaine en s'excitant beaucoup l'un l'autre, en essayant de s'impressionner, de s'épater l'un l'autre. J'essayais d'épater Jaco, j'essayais d'épater François.
Il y avait une vraie émulation. Oui, alors j'ai lu, alors je ne sais pas si c'est vrai parce qu'il faut toujours vérifier ces infos, mais j'ai lu, Thomas Gunzig, que François Skeuten vous avait fait prendre des poses devant un miroir pour tester telle ou telle posture, telle ou telle silhouette, c'est vrai?
Il ne faut pas croire qu'on restait assis pendant ces longues après-midi, on bougeait beaucoup.
Donc vous n'étiez pas seulement scénariste, mais presque aussi doublure acteur,
oui,
quoi.
Avec Jaco, on faisait du judo, on se retrouvait avec des saisies au cou et tout ça, ouais, c'était assez physique.
Il faut dire que François Skeuten, Thomas est très musclé, et donc c'est très agréable, ça permet d'avoir des expressions très très fortes. Pour Mortimer, qui est quand même un peu plus vieux et un peu plus massif, il fallait interpréter, mais ça donnait quand même une idée sur certaines forces qu'il pouvait avoir dans certaines situations.
Mais ça veut dire que vous aimez bien dessiner sur modèle, sur modèle vivant, sur...
Ah oui, bien sûr.
Depuis toujours.
Depuis toujours, et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que Jacobs se prenait comme modèle pour dessiner Mortimer, prenait des photos pour chaque case, donc il y avait un processus extrêmement observé chez Jacobs. Et c'est évidemment ça qui donne cette force aussi dans ses albums, c'est les attitudes qu'il prenait. Et c'est son physique qui transparaît dans le personnage de Mortimer.
Alors vous êtes un peu comme les trois mousquetaires, puisqu'en fait vous êtes quatre, et le quatrième c'est vous, Laurent Durieux, c'est vous qui vous êtes occupé des couleurs. Dans l'album, on va y venir un instant, mais juste une petite question à François Skeuten au préalable. Là aussi, pourquoi déléguer? Pourquoi laisser ce soin-là à quelqu'un d'autre?
Écoutez, c'est vraiment un album qu'on voulait un petit peu exceptionnel. Il fallait qu'on casse un certain nombre de réflexes aussi, pour arriver à essayer de faire ce livre qui n'était pas préfigurable, je dirais, qui n'était pas... Et donc, le plaisir, c'est que Laurent s'est embarqué dans l'aventure, et du coup, ça a encore amené plus de fraîcheur, c'est-à-dire... un regard nouveau, et on avait besoin de ça. Parce que sinon, si on arrive avec toutes nos vieux trucs, nos vieilles ficelles, eh ben, le livre se sclérose un peu. Et là, il y avait cet espace qu'il nous a ouvert.
Mais alors, la couleur, c'est évidemment très important dans un album Laurent Durieux, parce que c'est aussi la première chose que le lecteur voit, quoi. C'est vraiment, le premier regard sur un album, ça passe évidemment par le dessin, beaucoup plus que par le texte et beaucoup plus que par l'histoire, hein, vraiment le premier regard. Mais ça passe aussi pour la couleur. C'est donc quelque chose de très important pour s'imprégner d'une atmosphère, pour avoir envie de rentrer aussi dans une histoire. C'est avec ça en tête que vous avez travaillé?
Ah oui, tout à fait.
C'est un travail marketing d'une certaine façon.
Ah oui, carrément. Ça c'est marrant, c'est la première fois qu'on me dit ça, mais c'est vrai que je disais souvent à François, j'espère que les gens ouvriront le bouquin sur cette page-là. Parce que effectivement, quand on ouvre un livre et qu'on a une page qui est intéressante graphiquement, au niveau des couleurs, des ambiances, très souvent, en tout cas moi, je referme le bouquin, je dis c'est bon. C'est acheté,
ouais.
C'est fait. Donc on a vraiment, moi j'ai voulu vraiment travailler énormément sur les ambiances et les climats, en rapport d'ailleurs au Piège Diabolique, c'était un peu l'exemple que j'avais en tête.
Donc le Piège Diabolique, c'est l'un des albums signé Jacobs.
Exactement. Assez tardif, qui n'est pas parfait, mais par contre le sublime, il est vraiment sublime dans cet album. Donc on s'est mis ça en tête. Bon, on n'arrivera jamais à la cheville de Jacobs de toute façon, même à 4, hein. Ça c'est une certitude. Mais disons que c'était vraiment le guideline que j'avais, c'était d'avoir un album bourré d'atmosphère et de climat.
Et vous avez travaillé en liaison permanente avec les trois autres, planche après planche. Alors, ou bien vous êtes arrivé à la fin du projet.
Non, j'ai mis un an à faire cette mise en couleur, plus ou moins sur une période de 2 ans. Jaco et Thomas, ils ont vu ça relativement tard. Enfin, je crois que vous avez peut-être vu les 10 premières planches et puis hop, il y a eu un gap. Mais par contre, François, j'aimais bien l'appeler parce que je sais que il était dans la mine en train de chercher des diamants, hein. Et moi, de temps en temps, je venais avec ma petite frontale, je dis regarde un peu ce que j'ai trouvé, qu'est-ce que tu en penses.
Vous laissez pas carte blanche quand même.
Si. François, enfin, ce projet, c'est vraiment de l'éditeur, on a reçu une carte blanche et moi, j'ai reçu carte blanche de François. De toute façon, je vais vous dire la vérité, s'il m'avait dit écoute voilà je veux ça, j'aurais refusé le travail.
Vous m'en direz des nouvelles ? Sur RFI.
VMDN avec François Skuyten, Jaco van der Mal, Thomas Gunzig et Laurent Durieux pour le dernier Pharaon aux éditions Blake et Mortimer. Deux héros qui sont, on l'a compris, hein, dans l'imaginaire collectif de plusieurs générations de lecteurs de bandes dessinées franco-belges depuis plus de 70 ans. Et puisque les premières planches du Secret de l'Espadon sont parues en 1946 dans le journal de Tintin. Sauf que là, François Skuyten, vous en avez dit un petit mot déjà tout à l'heure, c'est que nos héros, ils ont un petit peu vieilli, ils ont pris même un sacré coup de vieux quand même. Pourquoi ?
D'abord parce que le temps passe, parce que...
Oui, enfin, il y a plein de héros de bande dessinée qui vieillissent pas en même temps que le temps.
Oui, mais on avait envie de les mettre face à notre époque. Et dès lors, c'était plus logique qu'on a un petit peu bloqué l'évolution de Blake et Mortimer par les suites qui ont été faites dans les années 50. Si nous, on les met aujourd'hui, c'était peut-être normal de les voir un petit peu et ayant pris un peu le temps.
Oui, sauf que pour Lucky Luke ou pour Astérix, ça semble complètement inimaginable.
C'est vrai, bon, c'est une audace, mais que je trouve amusante. D'abord parce que nous-mêmes, on vieillit, donc c'était peut-être plus facile pour pouvoir les représenter. Et aussi parce que dès lors, on n'a plus d'audace aussi. Parce qu'on les détache un petit peu de la figure qui les a rendus si célèbres.
Oui, par exemple, Mortimer, donc il a pris un sacré coup de vieux, mais il descend quand même en parachute sur Bruxelles. Hein, donc,
c'est vrai.
Ça veut dire qu'il s'est quand même entretenu physiquement. Hein, donc,
Je pense que l'aventure lui donne un relent de jeunesse et qu'il a envie d'en découdre.
Bon, il est un peu à la retraite quand même, mais il est un peu désabusé quand même. Jaco van der Mal, et puis surtout les relations entre Mortimer et Blake se sont quand même clairement distendues. On peut pas dire qu'ils soient complètement fâchés, mais un petit peu brouillés quand même.
Ils sont un peu perdus de vue, effectivement.
C'est très étonnant ça quand on a lu les albums, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé ?
Mais ça permet de les faire se retrouver aussi. cette espèce de gap de quelques années, c'est évidemment, c'était intéressant pour au niveau du dessin de dire tiens physiquement ils sont pas tout à fait les mêmes, ce qui permettait de changer de main.
Oui, par exemple Blake, sa moustache est passée du blond au gris, quoi.
Par exemple,
très clairement.
Oui, tout à fait. Et mais aussi au niveau de toutes les préoccupations, c'est des préoccupations qui nous concernent beaucoup plus. Mais c'est de la même façon que Jacob, c'était très préoccupé par son époque à lui, par sa modernité à lui, et nous on est préoccupé par notre modernité à nous. Donc les premières idées qui nous sont venues, c'est bon, on habite Bruxelles où il y a un palais de justice sur lequel il y a un échafaudage depuis 32 ans. Personne ne sait pourquoi il y a un échafaudage depuis 32 ans, et donc c'est extrêmement mystérieux. Les mauvaises langues diraient que c'est un problème de non-décision politique, etc.
Oui, les mauvaises langues diraient que c'est une sorte de métaphore de la Belgique aussi. Ça c'est vraiment les très très mauvaises langues.
Oui, les très très mauvaises langues.
Ou de l'Europe.
Voilà. nous, donc là, on a mis le doigt dessus. C'est une cage de Faraday qui contient un rayonnement qui, sans ça, risquerait de détruire le monde. Et c'est un rayonnement qui est assez contemporain dans le sens que c'est un peu. Enfin, on sait que s'il y avait une éruption solaire, ça risquerait d'effacer tout ce qui est électromagnétique, les disques durs, etc. Mais tout ce qu'on a comme souvenir maintenant est sur disque dur. Notre mémoire est sur disque dur. Nos possessions, ce qui fait qu'on est riche ou pauvre, c'est sur disque dur. La dette du tiers-monde, elle est sur disque dur. Donc, pour certains, c'est une catastrophe. Pour d'autres, c'est une bénédiction. Et donc, c'est ça qui fait qu'il y a... Il y a plusieurs manières de lire cette espèce de rayonnement, cette espèce de vent solaire qui pourrait sortir de cette cage de Faraday.
Alors ce genre de thématique-là, Thomas Gunzig, elle est assez présente dans votre univers à vous, hein, dans vos œuvres précédentes. Dans quelle mesure, justement, vous avez apporté au scénario des petits détails qui les rendaient à la fois contemporains, crédibles, avec une petite dimension d'anticipation qui est aussi la marque de Jacobs?
Je serais totalement incapable de répondre à votre question. Je sais
bien
pas
dommage.
Du tout. Je sais, non, ce qu'il y avait au départ, c'était des choses très simples. On voulait Bruxelles en général, on voulait le palais de justice en particulier parce que c'est un bâtiment qui fascine François. Il y avait le questionnement qui nous taraudait, qui était, bon, c'est vrai, Blake et Mortimer sauvent le monde dans les années 50 un nombre incalculable de fois, c'est leur job. Qu'est-ce que c'est que sauver le monde aujourd'hui? Est-ce que c'est différent de le sauver aujourd'hui ou de le sauver il y a un demi-siècle?
Il y a quand même une différence majeure, c'est précisément l'empreinte de l'électronique, des nouvelles technologies. Quoi. Le vrai risque, c'est quoi? C'est un bug généralisé sur la planète? C'est une perte de mémoire dans tous les sens du terme.
Effectivement, sauver le monde aujourd'hui, c'est peut-être faire un grand reset. Voilà. Maintenant, je pense que moi, je me suis amusé beaucoup aussi à essayer un petit peu lire des choses sur les ondes cosmotelluriques, sur l'influence des ondes magnétiques sur les fonctionnements des machines, etc., etc.
Mais il y a un fondement scientifique à ce que raconte l'album et à ce que racontait déjà Jacobs du temps où c'était lui qui était au crayon.
On reste toujours de la science-fiction, c'est-à-dire qu'on part de présupposés réels et existants pour un petit peu voir si on pousse la logique à son terme que ça peut devenir. Mais on peut pas dire que je suis un grand scientifique.
Bon, cette dimension scientifique et d'anticipation, elle est aussi présente dans les couleurs. Laurent Durieux, est-ce que vous avez voulu mettre du fantastique dans les couleurs?
Ah oui,
et donc
carrément.
Dans chacune des planches de l'album?
Tout à fait, carrément.
Mais alors ça passe comment? Une onde magnétique, c'est de quelle couleur?
Ça, c'est, on fait confiance à son instinct. Quand on est coloriste, on fait confiance à son instinct. Et moi, j'ai fait confiance à mon instinct et au récit. Je voulais vraiment que ce soit surnaturel. Et très graphique et expressionniste. Ça, c'était vraiment le rôle que je m'étais donné.
Mais donc, par exemple, la Londe, elle est plutôt en vert, mais pas dans n'importe quel vert.
Oui,
aussi,
oui,
hein.
Exactement. Mais vous savez, le vert, c'est une couleur un peu anxiogène. Hein, quand on pense à Matrix, qui est un film où il y a beaucoup de vert. Voilà, je me suis dit que c'est une couleur très peu utilisée en bande dessinée. Les gens ont très peur d'utiliser. Je ne sais pas, peut-être pour l'impression, j'en sais rien.
Non, même, je crois qu'on interdit le vert pour les couvertures parce qu'on pense que ce n'est pas commercial.
Voilà.
Bon, il y en a un petit peu hein, sur la couverture, dans un coin, c'est pas la couleur dominante. Hein.
Mais c'est peut-être pour ça qu'elle se vend très très bien.
Mais alors, est-ce que précisément il y a des couleurs qui vous ont été directement suggérées par l'histoire, le scénario concrètement?
Ah oui, surtout l'album, je peux pas vous dire parce qu'il n'y a pas d'exemple, mais quand je pense à Bruxelles, je pense à un ciel déjà un peu lourd, un peu gris, avec des rayons de lumière, avec voilà ce qui donne vraiment tout l'intérêt du climat, etc. Donc oui, j'ai pas eu peur de mettre Mortimer en vert par exemple sur des fonds orange, comme l'aurait fait peut-être Jacobs à l'époque d'ailleurs. Hein, donc non, et puis c'est le souvenir que j'avais de Jacobs aussi qui m'a indiqué la voie. Pour la couleur.
Alors, puisque vous évoquiez le personnage de Mortimer, il a une veste verte, hein, aussi.
Ouais.
Alors ça, c'est la veste traditionnelle.
Ah
c'est
oui,
la veste que tous les lecteurs assidus vont reconnaître. Mais il change énormément de costume, à l'intérieur de l'album, ce qui n'était pas forcément toujours le cas dans les albums de Jacobs.
C'est vrai. En fait, François avait imaginé une veste en cuir, couleur cuir. Et je lui dis, non, François, ça, tu peux pas faire. Tu as fait déjà beaucoup de choses avec nos héros. J'ai dit, il faut que cette veste soit verte. Comme un espèce de petit lien avec visuel, je dirais, de mémoire. Le temps a passé, mais ses goûts n'ont pas changé, en fait.
Laurent a joué beaucoup plus qu'un rôle de coloriste. Hein. Il était là, il nous a fait beaucoup de remarques sur le récit même, sur les dialogues. Il a accompagné le travail des couvertures, par exemple. C'était une collaboration très organique qu'on a désirée tous les quatre. Tout était possible, on pouvait tous dire, et nous faire et recommencer s'il fallait, des dialogues, des pages, des détails. Tout était possible. C'était important, ça, parce qu'en fait, une bande dessinée, c'est pas d'un côté un scénario et d'un côté des dessins. Et ce qui est le plus intéressant, c'est quand on ne sait pas, justement, séparer l'un de l'autre.
Una reggia e il nome illustre che qui c'è l'arme forza. Vincitor dei miei fratelli, ond'io la vecchia, tinta del sangue amato, trionfa. Porti e dietro il carro re, mio padre di Castiglia vinto. Insana morale mi sorprende al seno d'un padrino figlia rendete.
La Tebaldi qui chante cet extrait d'Aïda, l'opéra égyptien de Verdi que l'on entend dans cet album Le Dernier Pharaon, album signé de nos quatre invités du jour, François Skuyten, Jaco van Dormael, Thomas Gunzig et Laurent Durieux. Et le titre, mais aussi le démarrage de l'album, un plonge le lecteur au cœur de la pyramide de Khéops, François Skuyten.
J'aime beaucoup que vous disiez qu'on entend.
Ah oui?
Dans l'album.
Mais c'est vrai, on l'entend. On l'entend.
Oui, ça, j'aime bien
quand on connaît la, quand on connaît la musique, tout de suite, effectivement, on l'a à l'oreille. Et reviennent en mémoire, hein, quand on entre dans cet album, quelques souvenirs forcément, et notamment la fin du cinquième album de Blake et Mortimer, le deuxième volet de leur deuxième aventure, Le Mystère de la Grande Pyramide, et notamment cette scène où nos deux héros se trouvent à l'intérieur de la chambre d'Horus avec leur ennemi juré Olric et le fameux cheikh Abdel Razak, extrait du dessin animé tiré de la BD.
Par Horus demeure, le temps est venu d'expier tes crimes. Ô Aton, source de vie, ô toi, soleil du jour, le monde est dans ta main.
Un prêtre d'Aton.
Que ton nom ne soit plus. Oh. Approchez, étranger.
Ainsi, vous êtes le gardien du tombeau.
C'est ma mission, en effet, celle de mes pères avant moi. Depuis près de 35 siècles, nous veillons. Et jusqu'au retour d'un monde de lumière et de pureté, nous veillerons.
Un descendant de Pathenemeb.
C'était mon ancêtre. Tu es un homme bon. Garde ceci en souvenir de moi. Et maintenant, vous allez oublier tout ce que vous venez de voir.
Mais...
Au nom d'Aton, oubliez. Oubliez.
Et où sommes-nous?
Que s'est-il passé?
Nous sommes à l'entrée de la chambre du roi.
Comment sommes-nous arrivés là?
Je me souviens de l'attaque de la villa, ensuite nous sommes allés sur le chantier, et puis plus rien.
Ah, j'ai l'impression d'avoir rêvé, mais de ne pas me souvenir de mes rêves.
Oui, moi aussi. Je me souviens d'une sorte de lumière éblouissante.
Moi aussi. Nous avons rêvé la même chose.
Oui, c'est étrange.
Je donnerais cher pour me souvenir de ce rêve.
Peut-être n'était-ce pas un rêve?
D'où sort cette bague?
Mais... je ne sais pas. L'Égypte n'a pas encore livré tous ses secrets.
Et c'est assez drôle parce que dans l'album, il y a une référence explicite à cette phrase-là. Hein, l'Égypte n'a pas encore livré tous ses secrets. C'est de là que vous êtes parti, François Skuyten?
Oui, on a profité un petit peu de ce moment assez extraordinaire où en fait, ils perdent, on va, le cheikh Abdel Del Razek leur enlève une mémoire. Et ça, c'est évidemment très, très excitant de voir ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été dit pendant cette période et le rôle de cette bague avec lequel Mortimer se retrouve à la sortie de la pyramide de Khéops. Donc ce sont des éléments qui nous ont... et qui sont arrivés à... D'ailleurs, pas tout au début, vous savez, c'est arrivé au milieu de l'histoire. C'est d'ailleurs, je crois, plutôt une idée de Thomas. Et ça fait rejaillir complètement l'histoire. Ça, c'était vraiment formidable. C'est le genre de moment d'émerveillement où brusquement, on a le sentiment qu'il y a des alignements de planètes.
Oui, mais c'est vrai, Thomas Gunting, qu'il était important aussi pour les fans de la première heure de Jacobs et de Blake et Mortimer d'inscrire cet album qui est réellement singulier, qui est un peu un ovni dans la série, mais de l'inscrire quand même dans la vraie histoire. Et c'est vrai que la dimension égyptienne reste extrêmement présente dans les albums qui suivent, hein, le mystère de la Grande Pyramide. Hein. C'est vraiment l'un des axes majeurs, finalement, des aventures de Mortimer, notamment, à travers ces fameux rêves, ces fameux cauchemars.
Oui, enfin, en tout cas, on n'avait pas de volonté, a priori, on n'avait pas de volonté particulière de lier cette aventure-ci aux autres aventures.
Et mais pourtant, il y a plus qu'un clin d'œil. Là.
Mais alors, ce qui était intéressant, c'était que la Grande Pyramide, en fait, la seule aventure qu'ils ont oubliée du fait de l'intervention du Sheikh, hein, et qui a, comme le disait François, le mystère lié à ce qui s'est dit dans la chambre du roi pendant qu'ils sont inconscients ou à moitié conscients. Et donc ça nous a apparu à un moment comme quelque chose d'évident, quoi. Donc c'est comme si tous les objets narratifs qu'on avait posés au début du travail qu'on a fait soudain se trouvaient liés par un seul et même fil. C'était, voilà, tout s'est mis en ordre à ce moment-là.
Mais ce fil-là, il commence effectivement dans la Grande Pyramide et il se poursuit dans l'album qui suit immédiatement, c'est-à-dire la Marque Jaune, à travers le personnage d'Ulrich. Hein, par Horus Demeure, c'est une sorte de malédiction qui s'abat sur le personnage d'Ulrich. Vous n'avez pas envie, là, tous les quatre, de mettre Ulrich aussi dans l'album, Thomas Gunting? Ça, c'est très étonnant quand même, parce que moi je l'attendais, je me suis dit bon, quand est-ce qu'il va arriver, parce que souvent chez Jacobs il arrive plutôt au milieu d'album, voire un petit peu dans les deux tiers, pas toujours, parce que parfois il est grimé, hein, aussi. Oui. Donc on s'en rend compte après, mais là il n'y a pas d'Ulrich, à moins qu'il soit complètement caché et que j'ai rien vu, mais quand même.
Non, mais Blake et Mortimer ont vaincu Ulrich pendant un demi-siècle.
Oui, mais enfin,
il faut vraiment qu'il soit complètement crétin.
Ouais, il est ressuscité 40 fois dans la saga, quand même, Ulrich. Donc vous auriez très bien pu, si vous aviez voulu, le remettre d'une façon ou d'une autre, François Skuyten.
Oui, mais justement, le livre qui nous a peut-être aussi inspiré, c'est Le Piège Diabolique. Et ce livre-là, il n'y a pas Ulrich. Et parce que, pour nous, on a le sentiment qu'Ulrich aussi est un personnage qui appartient aux années 50. C'est un peu un mauvais qui a des caractéristiques de l'époque. Et aujourd'hui, on a l'impression que le mauvais ne doit pas avoir cette forme-là. Le mauvais, il est beaucoup plus diffus. Il peut être dans les banques, il peut être dans...
C'est-à-dire, si Ulrich, il y aurait eu le méchant et tout était de sa faute. Ici, ce qui était plus quelque part plus contemporain, c'est qu'on ne sait pas. C'est un peu un système qui fout la merde. C'est plus qu'un méchant. Et ici, le méchant, c'est l'argent. Et ça, il sera là, quoi.
Alors, en tout cas, effectivement, les souvenirs, hein, comme on le disait avec Thomas Gunting à l'instant, les souvenirs de la Grande Pyramide continuent de hanter le personnage de Mortimer. Ses cauchemars vont reprendre, notamment quand il va étudier ces étranges radiations qu'on évoquait tout à l'heure et qui proviennent du palais de justice de Bruxelles. Alors, vous connaissez la Grande Pyramide, hein, vous-même, François Skuyten, vous êtes rendu en Égypte avec la mission Scan Pyramides. Vous faites aussi partie du conseil d'administration de la fondation Poulard, du nom de Joseph Poulard, l'architecte du palais de justice de Bruxelles. Et c'est donc à l'intérieur de ce bâtiment, qui est vraiment l'un des symboles de la ville de Bruxelles, que l'on découvre Mortimer sur la couverture de l'album. Alors il est les pieds dans l'eau, et puis il est au pied lui-même d'une immense statue du dieu Seth. Ce lien entre l'Égypte ancienne et donc la pyramide et le palais de justice, vous l'avez pas inventé, il existe réellement.
Il existe réellement sur plein de points. Il y avait le fait que, indéniable, que Jacob, vous voyez, que Poulard a été marqué par son professeur, qui était un grand égyptologue, et ça a certainement, disons, transformé son travail, puisqu'il y a plein de signes liés à l'Égypte dans le palais de justice. Et on en a encore trouvé. Bon, évidemment, il y a le lien avec la franc-maçonnerie, donc qui a certainement aussi construit l'esthétique de certains éléments décoratifs du palais. Donc tout ça faisait que c'était assez naturel, en fait, de créer ce lien avec Khéops.
Qu'est-ce qui vous fascine dans ce bâtiment, Jaco van Dormael? Parce qu'il y a forcément cette dimension historique et architecturale que François Skuyten a étudié de près, mais scénaristiquement, en tant que raconteur d'histoire, c'est un bâtiment qui respire le mystère, c'est un bâtiment romanesque, c'est un personnage de bande dessinée, ce palais de justice de Bruxelles?
Ah, mais c'était surtout un challenge de se dire, tiens, ce bâtiment est
est un des personnages, mais là on suivait la fascination de François, on voyait que ses yeux brillaient chaque fois qu'il en parlait, donc on se disait c'est une très bonne idée. Donc mais effectivement il y a énormément d'espace vide dans ce palais, il est fait plus pour un effet de théâtralité qu'un aspect pratique. Il est fait pour il donne une espèce d'idée de domination. Sa construction a rasé des quartiers entiers. Ce qui fait qu'il a été honni, et il y a toujours ce sentiment qu'il n'a jamais été terminé, vu que il y a toujours l'échafaudage pour le nettoyer, et on se demande s'ils vont pas classer l'échafaudage à la fin, parce que c'est la seule chose qui leur reste.
Oui, et l'échafaudage, Thomas Gunzig, est devenu non seulement un élément de décor, mais aussi un élément de mystère, quoi, un élément majeur dans la narration, dans l'avancée de l'histoire.
Oui. Bah, c'est un espèce de clin d'œil qu'on voulait faire à tous les Bruxellois qui croisent ces très mystérieux échafaudages qui ont quel âge maintenant? Ils doivent bien avoir 30 ans, oui, c'est ça. On a voulu leur trouver une fonction. Je pense que ça aurait été bizarre si on avait soudain montré un palais de justice dénudé, comme ça. Voilà, puis c'était surtout l'occasion de vivre des aventures avec François et Jaco qu'on a pu sortir, escalader les échafaudages, les voir de près, etc. Donc c'était l'occasion aussi de vivre des choses... ensemble, des vraies choses. C'était une expérience physique, en fait.
Oui, François Skeuten, c'est toujours très étonnant, parce que quand on reçoit un dessinateur de bande dessinée, on se dit ce qui lui donne peut-être le plus de plaisir, c'est de dessiner des personnages, c'est de dessiner la nature, etc. Et vous, vous êtes un peu un cas à part, parce que vous, ce que vous aimez bien, c'est de dessiner les bâtiments, les perspectives. Alors, il y a évidemment toute une dimension un peu vertigineuse, un peu fantastique aussi dans les bâtiments que vous dessinez. Qu'est-ce que vous aimez quand vous dessinez un échafaudage?
Alors, le pauvre Laurent, imaginez un échafaudage sous la neige.
Oui, pour un coloriste, il y a mieux comme cadeau.
C'est vraiment un cadeau empoisonné. Non, c'est pas tellement l'architecture qui m'intéresse. Ce sont des lieux porteurs de mystère, porteurs d'imaginaire. Et c'est le rapport que nous avons avec ces lieux. Ces lieux, je les dessine pas sans personnage. C'est la tension entre les acteurs, entre ceux qui les traversent. Et ces espaces parfois effrayants ou envoûtants ou merveilleux, je trouve que c'est un théâtre, c'est un espace théâtral. Le palais est une machine théâtrale.
Mais c'est un décor ou c'est un personnage ?
C'est un peu les deux. C'est vrai qu'il a une telle présence qu'il en devient évidemment un sujet à part entière. Et un sujet qui continue à perdurer, j'espère, quand on fermera le livre. Et puis j'espère, moi, ce que je souhaite le plus, c'est quand les gens visiteront ou arriveront par le train et verront la silhouette de ce palais et auront envie de s'approcher, et qu'il y ait un petit peu de tout ce qu'on a mis dans le dernier pharaon qui surgisse. Parce qu'en fait, c'est à ça que servent les fictions. Les fictions, elles sont là pour réveiller l'imaginaire des lieux.
Alors, comment est-ce que vous êtes sorti du cadeau empoisonné de François Skeuten, Laurent Durieux? Comment donner, justement, à travers la couleur, cette dimension mystérieuse au Palais de Justice de Bruxelles?
Oh, moi, j'ai voulu impressionner François, surtout le long de cet album, et j'ai voulu aussi lui faire un cadeau. Moi, j'estime que c'est un cadeau qu'il m'a fait le jour où il m'a demandé de travailler sur cet album. Et donc, je me suis pas tellement posé la question. J'ai pas, en réalité, j'aime bien dire, parce que c'est sympa de dire qu'on a souffert, mais en fait, j'ai pas souffert, j'ai pris un plaisir de dingue à faire ça. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'engagement. Mais qu'est-ce que c'est gai, quoi, de travailler avec une matière première comme le dessin de François? C'est fabuleux.
Alors, faire plaisir à François, c'est ce que vous venez de dire. Ouais. Et c'est vrai qu'on a un peu l'impression, et le regard du graphiste que vous êtes m'intéresse aussi, que quand on feuillette cet album, c'est plus un album skeutenien, si vous me passez le néologisme, qu'un album jacobsien. Est-ce que c'est aussi comme ça que vous le ressentez, vous, Laurent Durieux, au final?
C'est compliqué, oui. Je crois que c'est quand même un album assez personnel de François, mais j'ose espérer que les gens y verront aussi des clins d'œil à Jacobs, quand même, parce qu'on n'a jamais arrêté de penser à lui sur tout l'album.
Mais est-ce qu'il y a une filiation, un cousinage, entre Skeuten et Jacobs?
Moi, je pense que François est plus qu'un cousin, est un fils adoptif de Jacobs.
À quel niveau, concrètement? Ça se voit comment dans son trait?
C'est pas aujourd'hui, mais ça, la naissance de l'auteur François Skuyten est clairement inspirée de Jacobs. Je pense aux premiers albums de François, qui sont plus ligne claire, dans le découpage, dans son trait où il avait un trait, François avait au début de sa carrière un trait un peu plus ligne claire. Et moi, j'ai tout de suite pensé à Jacobs quand j'ai découvert son travail. Les phylactères, le dessin des phylactères.
Donc les phylactères, c'est les bulles.
Les bulles, est complètement inspiré de Jacobs.
Et la composition.
Et la composition des pages. Et il y a énormément de choses quand on veut vraiment y faire attention. Il y a plus de secret là. On voit que c'est vraiment son fils adoptif.
Oui, mais ce qui frappe tout de suite, quand on feuillette l'album François Skuyten, c'est évidemment les hachures. Et les hachures, c'est aussi un peu votre marque de fabrique. Oui. À vous, qu'est-ce que vous aimez d'ailleurs dans les hachures?
Ce qui est bien, c'est que Laurent les a transformés. Il les a mis en couleurs, ces hachures. Donc
oui, les hachures dialoguent avec les couleurs.
Oui, voilà. C'est plus du tout la technique un peu gravure comme la référence donne ce sentiment, évidemment, que je m'inscris dans cette tradition un peu de doré et des gravures des livres de Hetzel. Mais ce qui était intéressant dans ce travail de hachure, c'était un petit peu de ciseler, d'ouvrager et de, effectivement, comme le disait Laurent, de donner parfois un caractère un peu expressionniste. Mais vous savez, on ne se rend pas compte comme le style de Jacobs a évolué. Cette ligne claire qui lui était imposée par le directeur artistique de l'époque de Tintin, Hergé, il en a un petit peu souffert. Et il a essayé de s'en émanciper au fur et à mesure des albums. Et on voit bien, les derniers livres sont beaucoup plus réalistes. Et il s'est un petit peu échappé. Si on l'avait laissé faire, je crois qu'on n'aurait pas du tout eu des albums en ligne claire.
Et vous-même, est-ce que vous vous sentez quand même un peu un enfant de la ligne claire?
Oui, mais c'est vrai que j'en ai fait. Et d'ailleurs, Laurent a raison de dire que j'ai été lui piquer des façons de faire le ciel, et surtout dans la manière de composer ces images, dans la tension qu'il y a dans ces images. C'est vraiment quelqu'un qui m'a marqué très jeune.
Vous l'avez rencontré personnellement aussi.
Oui, je raconte l'anecdote souvent que j'avais un premier livre réalisé entièrement au crayon, et quand je lui ai offert un livre avec Claude Renard, il s'est exclamé « j'aurais toujours voulu faire ça ». Donc c'est pour dire que la ligne claire était quelque chose qui n'était pas naturel chez lui.
Laurent Durieux, Jacob, c'était aussi coloriste. Hein, je crois qu'il l'avait d'ailleurs colorisé pour Hergé, hein, notamment pour Tintin. Est-ce que les couleurs, est-ce que la palette de Jacobs vous ont aussi inspiré pour colorer cette aventure de Blake et Mortimer?
Oui, je ne sais pas si elle m'a... En fait, au départ, elles auraient dû nous inspirer, parce que François m'a eu comme ça, il m'a dit, mais je sais ce que je veux, tu sais, on va essayer de travailler dans les gammes de Jacobs, des premières éditions du journal Tintin, et en définitive, je lui ai tout de suite dit, on ne peut pas transposer les couleurs de Jacobs sur ton trait, parce que c'est beaucoup plus complexe, etc. Mais on a toujours eu ça en tête, mais Jacobs, il faut le dire, est un des plus grands coloristes. Et ce qu'il a fait pour Tintin, d'ailleurs, il a expliqué un peu à Hergé comment ça fonctionnait, la couleur. Au départ, Hergé, il tâtonnait, c'était assez moyen. Il est arrivé, il a dit, attendez les gars, je vais vous montrer comment ça marche. Mais c'est vrai, sur l'affaire Tournesol, on voit vraiment le changement. Et sur les Blake et Mortimer, les premières éditions sont somptueuses. La gamme est fine, les couleurs sont tendues. C'est vraiment un des plus grands coloristes, à mon sens.
On vous parle pas des réimpressions. Là, oui. Il faut revenir évidemment aux éditions qui étaient parmi les plus belles et qu'il a contrôlées. Après, hélas, il y a eu des remises en couleurs qui ont échappé à son contrôle.
Bruxelles, ma belle, je te rejoins bientôt, aussitôt que Paris me trahit, et je sens que son amour aigrit. Et puis, elle me soupçonne d'être avec toi le soir. Je reconnais, c'est vrai, tous les soirs dans ma tête, c'est la fête des anciens combattants d'une guerre qui est toujours à faire. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Michel, te rappelles-tu de la détresse, de la kermesse, de la gare de midi? Te rappelles-tu de ta Sophie qui ne t'avait même pas reconnu? Les néons, les noms du Dieu, sublime décadence, la danse des penses, ministère de la bière, artère. Place de Brouckère, Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. cruel duel, celui qui oppose Paris névrose et Bruxelles abruti qui se dit que bientôt ce sera fini. L'ennui de l'ennui, tu vas me revoir, mademoiselle Bruxelles, mais je ne serai plus tel que tu m'as connu. Je serai abattu, combattu, combattu, mais je serai venu. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Paris, je te laisse mon lit.
Dick Hanegarn qui chante Bruxelles dans VMDN sur RFI. Et Bruxelles, Thomas Gunzig, c'est pas seulement le décor, c'est aussi, on parlait tout à l'heure du palais de justice, mais même c'est toute la ville, hein, qui est fait aussi partie intégrante et qui est un personnage important de cette aventure de Blake et Mortimer. C'est une ville que vous connaissez assez bien, je pense, hein, même très bien.
J'y suis né et j'y mourrai. Hein.
Voilà, c'est une ville propice au développement de l'imaginaire.
Bah, c'est une ville en fait qui a servi assez peu, je trouve, dans les histoires. Quand on fait des grandes histoires, on voit toujours Paris, Los Angeles ou Londres,
y compris dans la bande dessinée. D'ailleurs, voilà. Elle est pas si présente que ça.
Et puis Bruxelles, que ça soit dans les romans ou bien dans les films, dans les BD, on la voit pas.
Comment vous expliquez ça?
Ben, je me l'explique pas. Je pense que j'en sais rien. C'est vrai que, enfin bref, j'en sais rien. Mais c'est en tant qu'habitant, en tant que Bruxellois, j'avais envie de m'en servir comme un matériel narratif. Ben, c'est ce qu'on avait fait avec Jaco déjà dans le Tout Nouveau Testament. Jaco voulait filmer Bruxelles comme un vrai personnage de l'histoire. François a voulu dessiner Bruxelles comme un vrai personnage de l'histoire. C'est gai de se servir de sa ville comme d'un vrai matériau narratif.
Et dans la ville, il y a évidemment les monuments que l'on croise énormément. Ils sont un peu mis à toutes les sauces quand même. Jaco van der Malse, ces monuments, c'est vraiment ça? Une ville, c'est ce qui est impressionnant, ce qui est monumental, ce qui est historique, avant finalement ses habitants?
Ici, ça sert un peu de repère, vu que tout a changé, vu
oui,
que c'est
un
une
peu.
Ville désertée, vu que c'est une ville.
Oui, parce qu'à cause des radiations, voilà. On met ça sous cloche, voilà, c'est une ville interdite, il y a un mur autour, voilà. Enfin bon,
une muraille,
ça, c'est horrible.
C'est
quand même,
une espèce de Fukushima, où, et puis on se rend compte qu'il y a quand même des gens qui y vivent, et puis on se rend compte, et il y a aussi les animaux qui y vivent très bien. Donc c'est un peu ce décalage-là, mais effectivement, Bruxelles a ce côté un peu, quand on y habite et qu'on la regarde longtemps, on voit le moche dans le beau et le beau dans le moche. Donc c'est une ville qui est à la fois moche et belle. Et cette espèce de mélange comme ça est troublant, mais c'est un peu comme quand on regarde longtemps un tableau, on sent autre chose en le regardant très très longtemps.
Dessiner la ville, François Scruton, c'est vraiment une vraie passion pour vous. Hein. Évidemment, il y a les cités obscures que vous co-signez avec Benoît Peters. Qu'est-ce qui vous, au-delà de l'architecture qu'on évoquait tout à l'heure, qu'est-ce qui vous fascine dans les villes? Pourquoi est-ce que vous êtes un dessinateur urbain, un dessinateur citadin?
Parce que sans doute, elles sont l'expression d'un monde, d'un système. Elles nous traduisent des cultures, des vies, ce sont des couches de monde et de vie. Et c'est ça qui est passionnant quand on les dessine, c'est qu'on passe à travers ça. Et du coup, on sent les influences, il y a plein d'histoires. Les villes sont nourries de milliers d'histoires. C'est la sédimentation de tous ces récits qui quand même traversent encore les pierres. C'est pas que des pierres. Ce qui m'intéresse dans le palais de justice, c'est pas cet ensemble de pierres, mais c'est que c'est un lieu très bizarre, très très étrange, avec plein de légendes. Il y a des tas de choses qu'on raconte, qui sont très curieuses, contradictoires. On sait qu'Orson Welles y a voulu y tourner le procès. On sait que ce bâtiment fascinait Hitler et Albert Speer, qui sont revenus et qui l'ont. Ils voulaient absolument le voir. Et c'est ce qui fait que brusquement, le lieu est tellement puissant, et ben qu'il vous porte aussi.
Mais là, vous le malmenez complètement dans l'album, parce qu'effectivement, la nature reprend ses droits, aussi bien la végétation que la faune. Alors, bon, dessiner un basilosaurus. Alors, un basilosaurus, c'est un immense lézard. Hein,
oui.
On l'appelle le zeuglodon aussi. Je suis allé me renseigner.
Wow.
C'est un animal qui a vécu quand même il y a plus de 30 millions d'années. C'est pour se faire un petit peu plaisir, François Scruton.
Oui, un lien aussi avec le piège diabolique, une façon de nous relier à cette exploration du temps. C'est ça qui était moi, Et je crois que Laurent et Thomas ont eu le même sentiment. On était effrayés par cet album oui. de Piège Diabolique. Il était totalement
Donc le Piège Diabolique, c'est une machine à explorer le temps qui permet à nos héros de se balader à la fois dans le passé et dans le futur.
Exactement. Et avec quelle précision il nous donnait ce sentiment d'être perdu dans le temps. Ça, c'est quelque chose qu'on n'oublie jamais. Et quand on l'a lu enfant, c'est très impressionnant. Et on a essayé un petit peu de retrouver l'émotion qu'on a eue.
Alors, le Piège Diabolique, précisément, parce que tout le monde ne l'a pas lu, Thomas Gunzig, qu'est-ce qui vous a à ce point marqué, effectivement, dans cet album, au point, justement, d'en faire l'une des pierres angulaires de la construction de votre œuvre à vous?
J'étais un petit garçon de 8-9 ans, et puis je découvre un album où on parle de voyage dans le temps, et ça me fascinait, où on parle de créatures préhistoriques, de dinosaures, et ça me fascinait, et où on fait du judo, et ça me fascinait aussi. Donc tout ce que j'aimais se trouvait dans une bande dessinée. Je ne connaissais pas Jacob, je ne connaissais pas Blake et Mortimer, j'ai découvert cet album, je l'ai lu, relu.
C'est votre porte d'entrée dans la série.
C'est totalement ma porte d'entrée, et je ne l'ai jamais oublié. Donc effectivement, il y a des choses qui ont sédimenté pendant des dizaines d'années, et puis qui certainement sont traduites après dans Le Dernier Pharaon.
Alors le fantastique est évidemment très présent dans l'album, et puis aussi le rêve, hein. Le rêve et notamment les cauchemars de Mortimer. Est-ce que du point de vue des couleurs, Laurent Durieux, il y avait dans vos choix, dans vos décisions, un traitement différent pour les scènes oniriques, parce qu'on change effectivement d'univers mental.
Je pense que on est beaucoup plus saturé, beaucoup plus bizarre dans les scènes de rêve. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'en définitive, c'est qu'à la fin du récit, on retrouve ces couleurs bizarres, mais dans la réalité. Donc le rêve, enfin les cauchemars, tout à coup, se mutent dans la réalité. Donc c'était quelque chose d'assez intéressant, je trouve. C'est un glissement assez intéressant.
Alors il y a aussi le teint des personnages. On en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que le visage de Mortimer, par exemple, il change de couleur, quoi. Et parfois son visage est teinté de rouge, de vert, de gris. C'est assez inhabituel, ça, dans une BD qui est quand même assez réaliste, même si elle est aussi fantastique par bien des côtés.
Oui. Mais moi, j'aimais bien l'idée de contrebalancer le dessin très réaliste de François par des couleurs qui l'étaient pas du tout. Il y a tout à coup une tension qui se crée, que je trouve plus intéressante, qui fait que le dessin de François est presque comme un vitrail, c'est-à-dire qu'il a fait les fils et moi j'ai été mettre la couleur. Donc c'est une espèce d'ensemble un peu bizarre, mais c'est vrai, l'album est bizarre, hein, mais c'est ça qui fait son intérêt, il me semble.
Alors un album qui pourrait être votre dernier, François Skeleton. Alors j'ai lu ça, alors c'est vrai, attendez, vous n'avez pas encore atteint l'âge de la retraite là.
Oui, mais peut-être qu'il est parfois bon de prendre un peu de recul quand on fait ce métier depuis si longtemps. Moi j'ai commencé, j'avais 16 ans. Donc c'est presque 50 ans dans quelques années. Est-ce qu'on n'est pas sûr d'avoir bien balisé le terrain? Est-ce qu'il n'est pas sûr que ce serait pas mauvais de s'arrêter et de regarder ailleurs?
Vous posez la question, votre décision est prise.
En tout cas, on peut pas dire jamais. Mais aussi, il faut avouer que le monde de la bande dessinée est aujourd'hui pris dans des équations complexes. On est dans un tuyau énorme qui produit 5300 nouveautés par an. On est un petit fétu de paille là-dedans. Il faut énormément produire pour exister, et quand on met 3-4 ans, c'est difficile. Donc il faudrait que je m'adapte, et je suis pas sûr que j'ai envie de m'adapter à l'idée de produire. Je trouve que j'ai eu la chance de faire ce métier en prenant le temps et en allant jusqu'au bout, en faisant ce travail de recherche, de documentation, en recommençant, en grattant beaucoup, je dois avouer, en gommant. Et puis bon, voilà, je vois un monde qui est très différent et que j'aime toujours énormément. Mais j'ai aussi peut-être envie d'aller voir...
Du côté du cinéma, avec Jacob van Dormael, par exemple, ou avec d'autres.
Mais absolument, il y a des projets du côté du cinéma, il y a du côté de la scénographie, du côté du spectacle, du côté du dessin, du côté des livres qui racontent des histoires. La bande dessinée est très exigeante, très exigeante. Et je trouve qu'aujourd'hui, on ne permet pas, et hélas, les jeunes auteurs en souffrent beaucoup, on ne donne pas toujours à ces auteurs le temps de faire ce métier comme il faudrait le faire.
Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus nous voir, François Skeuten, Jacob van Dormael, Thomas Gunzig et Laurent Durieux. Signale également l'exposition Science-Fiction Blake et Mortimer au Musée des Arts et Métiers. C'est à Paris à partir du 26 juin et jusqu'au 5 janvier. Dans un instant, le journal. On se retrouve demain et vous m'en direz des nouvelles.